Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce dimanche 25, Priorité santé est donc consacrée aux avancées scientifiques dans la lutte contre cette maladie. Pour en parler, je reçois le docteur Bernard Pécoul, qui est directeur exécutif de la fondation DNDI, l'initiative sur les médicaments pour les maladies négligées. Et nous aurons au téléphone le professeur Ogobara Dumbo, qui est directeur du Malaria Research and Training Center au CHU de Bamako. Il est professeur à la faculté de médecine de Bamako au Mali. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Jeanne Van Herps, qui est conseiller principal au Rollback Malaria. Le Rollback Malaria qui a publié en début de semaine un rapport qui fait le point sur la situation de la lutte contre le paludisme. Nous aurons également au téléphone le docteur Seliji Anyanji, qui travaille dans une unité médicale de recherche à l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon. Docteur Bernard Pécoul, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tout d'abord, une première question, et je dirais que je poserai la même question au professeur Ogobara, qui est avec nous en téléphone depuis le Mali. Est-ce qu'on progresse dans la lutte contre le paludisme? Est-ce qu'on en est à annoncer, je dirais, des bonnes nouvelles?
Ben écoutez, par rapport aux années 90, où on a eu une série de mauvaises nouvelles dans le domaine du paludisme, en particulier avec l'arrivée des résistances aux antipaludiques classiques, et donc une morbidité qui a augmenté, une mortalité qui a augmenté, la décennie qui vient de se dérouler a vu des avancées. Puisqu'il y a eu une mobilisation internationale, typiquement orchestrée par Rollback Malaria, faire reculer le paludisme. Il y a eu la mise à disposition de nouveaux médicaments, il y a eu la mise à disposition des moustiquaires imprégnés. Donc il y a eu à nouveau une reprise en charge de ce problème qui est fondamental. Mais on est encore loin du compte.
C'est ça, mais vous avez longtemps dit que c'est une maladie négligée, on peut plus tout à fait dire ça aujourd'hui quand même.
Alors on ne peut plus tout à fait dire ça puisque la recherche notamment a reprise et que la mobilisation au niveau des programmes nationaux, donc des États et avec l'appui de la communauté internationale a repris. Donc on est dans une tendance qui est meilleure. Mais la situation est tellement complexe et elle touche tellement de populations qu'il y a encore beaucoup à faire.
C'est ça. Professeur Ogobara Dumbo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone depuis le Mali parce que vous deviez être avec nous en studio ce matin, mais vous n'avez pas pris votre avion hier soir pour une bonne raison, c'est que vous démarrez justement des essais cliniques et que vous avez besoin d'être sur place pour ces essais. Je voudrais votre point de vue sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le docteur Bernard Pécoul? Quand même, on progresse dans la lutte contre le paludisme.
Absolument. Je crois que ces 5 dernières années, nous avons vu une avancée spectaculaire de la mobilisation internationale et de la communauté scientifique pour faire avancer la lutte contre le paludisme. D'ailleurs, nous osons parler maintenant d'élimination, parce que je viens de Washington où s'est tenu le 23, 24, 25, 26, avec l'ensemble de la communauté scientifique et des bailleurs de fonds, ce que nous appelons le Malaria Eradication Initiative Agenda, qui a été lancé par Bill and Melinda Gates à Seattle en 2007. Et actuellement à Bamako, nous avons l'ensemble des partenaires de RBM qui sont en train de faire la revue des programmes de 17 pays de la région ouest-africaine. Et on voit qu'il y a des progrès qui sont en train réellement d'être visibles sur le terrain.
Concrètement, professeur Ogobara Dumbo, je l'ai dit, vous êtes directeur du Malaria Research and Training Center à Bamako. Vous avez plus de moyens pour faire de la recherche?
Non, Dieu merci, je pense qu'avec l'appui de notre gouvernement, de nos autorités, de la population qui est réceptive à nos activités de recherche, des partenaires au développement comme le NIH aux États-Unis, l'Union européenne, la coopération française qui nous appuie vraiment, les fondations comme les fondations Bill et Melinda Gates et la fondation Mérieux, vraiment tous ces acteurs avec l'industrie pharmaceutique et des acteurs comme DNDI, MMB, sont en train de nous accompagner dans l'ensemble de nos activités de formation et de recherche pour l'identification et la mise au point de nouveaux médicaments, mais aussi le développement de vaccins.
Alors on reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur les vaccins. On va plutôt parler maintenant justement du développement de nouveaux médicaments. Concrètement, comment sont menées ces recherches par votre centre?
Alors vous savez, la grande nouveauté en Afrique, c'est que depuis les années 2003, il y a eu un effort de développement des capacités d'essais cliniques sur le terrain dans les pays africains. Donc, on met en place des équipes qui sont capables de faire des études de phase 1B, phase 2, phase 3 et accompagner les programmes dans la pharmacovigilance. Ce que nous faisons, quand un partenaire comme DMDI ou bien Sanofi Adventist ou Novartis ou d'autres laboratoires disent « nous avons des médicaments » et actuellement nous parlons de combinaisons thérapeutiques, on leur dit, ben, écoutez, si ça a été testé dans les pays européens et que c'est sans danger sur le malade, nous allons les tester l'efficacité sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons en amenant ces médicaments sur le terrain dans des villages comme Bankoumana, où nous avons 20 000 habitants autour de ce village. Nous bâtissons les structures de recherche qui répondent aux normes ACS internationales et nous administrons ces médicaments dans la population cible. Nous suivons l'efficacité et la tolérance en interagissant avec un comité de surveillance des effets secondaires et avec le comité d'éthique. Et c'est ainsi que nous progressons vers la mise au point de ces médicaments avec les partenaires au développement.
Docteur Bernard Pécoul, je voudrais juste vous faire réagir d'abord à ce que vient de dire le professeur Ogbara Dumbo. C'est un point important, c'est que ces médicaments, avant qu'il y ait des essais cliniques faits sur le terrain, sont d'abord testés pour savoir s'ils ne sont pas, s'ils sont pas dangereux.
Alors, il y a tout un travail de recherche préclinique hein, qui s'impose lorsqu'on travaille sur les médicaments. Il faut faire toute la partie découverte et notamment tester chez les animaux afin d'essayer de prévenir quelques des problèmes de toxicité majeurs. Mais j'appuie complètement ce que disait le professeur Dumbo. La grande nouveauté, c'est que nous avons en Afrique aujourd'hui des partenaires extrêmement compétents et bien préparés pour conduire des essais cliniques de qualité tout à fait comparable à ce qui se fait dans les hôpitaux parisiens. Donc ça, c'est très satisfaisant parce que ça permet d'avoir des résultats rapides, fiable. De qualité, fiables, qui permettent ensuite de faire des recommandations. Parce que toutes ces étapes sont extrêmement importantes si on veut changer la situation pour les populations en général.
Professeur Ogbara Dumbo, concrètement, comment vous faites quand vous menez ces essais cliniques avec la population? On sait que ce n'est pas facile d'expliquer ce qu'est un essai clinique. On sait qu'il faut un consentement éclairé, entre guillemets, du patient qui y participe. J'imagine que ce n'est pas très facile.
Exemple, moi je suis un fils de village, donc je suis un villageois. Et je travaille dans les villages. Par exemple, la population de Bankoumana, quand nous les avons rencontrés, nous avons émis l'idée de travailler avec elles. Elles vous croient sur parole, mais elles vous croient sur les évidences. Donc nous avons mis en place les structures de santé communautaire et d'essais cliniques avec des laboratoires et l'ensemble de la logistique. Et là où je suis en train de faire une émission à 60 km de Bamako, où il fait 40 degrés à l'extérieur et je suis dans un laboratoire à 26 degrés comme à Marseille ou à Paris, ça veut dire que l'ensemble de ces réalisations avec nos partenaires du NIH et de Amanet sur le terrain actuellement font que la population sait que nous sommes là pour travailler au niveau international. Et deuxièmement, il y a des étapes d'approche communautaire où nous avons la permission de l'ensemble de la communauté en discutant avec les chefs de village, les tradipraticiens, les religieux, l'organisation des femmes, et nous avons la permission des chefs de famille, et ensuite nous arrivons à l'étape du consentement individuel éclairé, avec l'appui des comités d'éthique institutionnelle, et en utilisant le langage local, nous arrivons à faire passer le message en décrivant les hypothèses, la méthodologie, les effets secondaires et comment nous allons les gérer. Donc tout ceci, avec la présence des médecins urgentistes aujourd'hui, j'ai l'ensemble des médecins urgentistes du point G et des internistes qui sont aujourd'hui présents à Bankoumana. Donc, tous ces gens donnent une confiance et le sérieux à la méthodologie préparative qui fait que la population adhère parce qu'elle voit les résultats.
Professeur Ogbara Dumbo, si je ne me trompe pas, votre grand-père était tradipraticien. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça, d'ailleurs, que les Maliens vous font confiance?
Il y a ça, mais il y a aussi les résultats. Je crois que quand vous êtes présent dans un village comme à Bankoumana, et en une année, vous réduisez la létalité du palud à 0% pratiquement. Parce que vous prenez en charge rapidement les cas. Vous gérez donc avec des standards internationaux, parce que nous avons tous ces outils. Ce qui fait que la population voit les résultats. Et deuxièmement, c'est transparent. Tous les résultats, aussi bien que les effets secondaires éventuels et les résultats positifs, sont présentés et discutés avec la population. Donc rien n'est caché. Ils peuvent aller à Bamako vérifier qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc ce qui fait que cette relation de confiance que nous arrivons à créer avec la population et les résultats obtenus qui fait qu'on est durable dans un village comme Bankoumana.
Clairement, les patients qui y participent ont un intérêt, ils sont mieux suivis médicalement.
Absolument.
Professeur Ogbara Dumbo, on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous parlerez plus concrètement des essais cliniques que vous menez en ce moment, entre autres sur les vaccins.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le paludisme. Docteur Bernard Pécoul, ce que vient de dire le professeur Ogobara Dumbo est effectivement essentiel. C'est pas vous du Nord qui débarquez vers le Sud.
Oui, c'est paraît être l'élément essentiel pour conduire de la recherche dans des bonnes conditions. C'est d'avoir un ancrage avec les communautés, avec les scientifiques du pays, qui préparent le terrain, qui définissent eux-mêmes les objectifs, qui expliquent les objectifs à la population et qui s'engagent à retourner vers la population lorsqu'il y a des résultats. C'est parce que je pense que le problème éthique majeur de conduire des essais cliniques, c'est de ne pas assurer que les bénéfices potentiels des essais cliniques reviennent vers les populations qui ont été testées. Donc ça, si on en fait la démonstration, je pense qu'on gagne immédiatement la confiance des gens et on leur montre que ce qui a été fait de manière extrêmement rigoureuse, scientifique, se traduit en plus dans le quotidien de leur vie et leur permet de sauver des enfants dans les années qui suivent.
Nous avons au téléphone le docteur Jeanne van Herps, qui est conseiller principal au Rollback Malaria. Docteur Jeanne van Herps, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Le Rollback Malaria vient de publier un rapport sur la lutte contre le paludisme. Très concrètement, est-ce qu'on constate aujourd'hui une baisse des décès ?
Oui, effectivement. Il y a donc plusieurs pays où la chute de la mortalité est assez spectaculaire. C'est évidemment quelques petits pays, si je peux m'exprimer comme ça, c'est le Sénégal et le Rwanda, mais quand même aussi des pays plus grands comme la Zambie, le Kenya et l'Éthiopie, où des résultats sont assez spectaculaires. On a vu en général que les pays, ça paraît une palissade évidemment, mais les pays qui ont obtenu les financements pour lesquels ils avaient exprimé leurs besoins, c'est eux qui ont eu un impact même au-delà de nos attentes.
Mais ça veut bien dire qu'il faut des financements. La baisse de CDC, elle est évaluée à combien ? On sait un peu combien de vies on a pu sauver là sur ces dernières années ?
On estime, ça, c'est uniquement une étude qu'on a menée sur 12 pays, parmi lesquels les 5 les plus performants donc, que je viens de vous nommer, qu'on a sauvé à peu près 400 000 vies d'enfants, uniquement d'enfants en dessous de 5 ans, en moins de 10 ans. Donc rien que par ces efforts, au début évidemment la décennie, il n'y avait pas encore, il fallait tout démarrer, mais maintenant c'est assez spectaculaire. Des pays comme la Zambie, l'Éthiopie, qui affichent une baisse de la mortalité de 60%. Il y a d'autres pays, l'Érythrée, mais c'est un petit pays qui dépasse les 80% de chute de mortalité. Donc.
Et qu'est-ce qui fonctionne en termes de stratégie ? Quelle est la bonne stratégie ?
La bonne stratégie, c'est simple. Il faut déployer en même temps et à l'échelle du pays les moustiquaires imprégnés d'insecticides et bien sûr assurer à ce que les gens aussi les usent, les utilisent, dorment en sous. Et puis les antipaludiques, les médicaments. C'est ce médicament chinois qui a été maintenant repris par l'industrie un peu dans plusieurs grandes compagnies, dont aussi M. Pécoul, le docteur Pécoul.
On reviendra avec lui d'ailleurs sur l'ASAC justement.
Donc ça, c'est ce médicament chinois qui a été la grande révolution. On a peut-être un peu hésité avant de le recommander avec force. Et donc c'est fait maintenant, et effectivement on va l'effet tout de suite sur la mortalité et la prévention, puisque ce médicament, à l'opposé de ses prédécesseurs, a aussi un effet préventif.
Alors et justement, concrètement, on en est où de l'accès à ce traitement de qualité ? Parce que nous on est frappés, on a quand même encore beaucoup d'auditeurs qui nous contactent, nous envoient des emails ou qui nous appellent en disant « mais nous on n'y a pas accès ».
Je vous confirme qu'on a effectivement sans doute concentré beaucoup plus d'efforts, parce que c'était plus facile si je peux dire, sur les moustiquaires, malgré le fait qu'ils soient plus chers. Mais puisque pour délivrer des moustiquaires, une moustiquaire par deux personnes, c'est un schéma relativement facile, en mobilisant les Croix-Rouges dans les pays, on a réussi à faire des campagnes de distribution fort efficaces, donc qui ont couvert tout de suite les pays, par exemple à l'occasion de campagnes de vaccination. C'était plus simple que de passer par tous les centres de santé avec les médicaments. Certains pays, il fallait qu'ils changent leur politique de santé. Donc on a pris du retard. Comme je l'ai dit, on a sans doute traîné un petit peu la communauté internationale, je veux dire, en recommandant vraiment ce médicament chinois comme la vraie alternative qui va mettre sur la vie. On est en train d'augmenter ça et bien sûr, on attend énormément d'un dispositif qui a été mis en place et qui veut rendre ce même médicament chinois extrêmement bon marché, pour vous dire 5 centimes de dollars à l'entrée du pays, pour le secteur privé et le secteur public et pour les ONG et toutes les agences des confessions, etc.
Docteur Jeanne van Herps, de ce rapport publié par le Rollback Malaria, il ressort que vous reconnaissez qu'il y a eu une aide financière qui a très largement augmenté, mais vous dites qu'elle est encore insuffisante.
Oui, bien sûr, on ne peut pas nier. Il y a 10 ans, on était à 40 millions d'euros par an à l'échelle de la planète pour le PALU. C'est ce que tous les donateurs ensemble pouvaient débourser. L'année passée, on a atteint 1,2 milliard d'euros. Cette année, on a une petite crainte parce qu'on voit qu'on va peut-être même, non seulement la croissance semble stagner un petit peu, de ce financement, je veux dire, il pourrait peut-être même un petit peu baisser, c'est peut-être le contexte qu'il fait. Mais il faut bien savoir que là, on n'est qu'à 25% de ce qu'il faudrait pour que tous les pays puissent obtenir le résultat que je vous ai montré dans les 5 pays que j'ai dit. Notre crainte au-delà de ça, c'est qu'en plus, dès que les mortalités baissent, non seulement les gouvernements locaux, mais aussi les donateurs risquent de tourner le regard ailleurs et dire « Oh ben voilà, on a gagné, c'est plus une priorité ». Or que c'est quand on rentre dans la phase d'élimination, qui est tout à fait possible, toutes les études le montrent, que les coûts restent encore extrêmement élevés.
Et c'est ça, vous dites qu'il faut 4 fois plus. Et c'est intéressant que vous parliez d'élimination parce que le professeur Ogbara Dumbo tout à l'heure nous disait exactement la même chose. Enfin, on peut parler d'élimination. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, docteur Bernard Pécoul. Effectivement, vous êtes d'accord, on progresse.
Alors, on progresse. Alors, bien entendu, la distribution des moustiquaires imprégnés a été une étape importante. On est encore loin du compte pour la distribution des dérivés d'artémisinine pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas été disponibles assez tôt, parce que les premiers produits qui ont été disponibles n'étaient pas toujours extrêmement simple d'utilisation. Parfois, c'était des combinaisons non fixes, donc avec beaucoup de comprimés, pas toujours de très bonne qualité, etc. Donc, il y a eu un problème d'approvisionnement qui commence à s'améliorer. Donc ça nécessite des étapes. Donc, il est clair que la grande diffusion aujourd'hui du Coartem ou de l'ASA, qui sont deux traitements qui sont à dose fixe. Donc, l'avantage, c'est qu'on assure une bonne adhérence au traitement. On est à peu près sûr que les gens prennent un bon traitement. Augmente l'efficacité et simplifie la mise en œuvre. Cependant, il y a un autre élément qui était extrêmement important dans le paludisme, c'est que pour traiter, il faut traiter les bons patients, donc il faut aussi rajouter l'étape du diagnostic, et c'est tout récemment que l'OMS a insisté qu'il fallait étendre la stratégie de faire le diagnostic quand on avait une fièvre, diagnostic de paludisme, parce que les raisons de la fièvre dans les contextes africains peuvent être diverses, donc aujourd'hui, traiter uniquement sur des symptômes, c'est se tromper peut-être selon les contextes une fois sur deux. Donc une manière d'améliorer aussi, c'est d'améliorer le diagnostic. Tout ça, c'est des étapes qui entraînent quand même des investissements importants, financiers, en termes de formation, en termes d'organisation des soins. Et on est encore loin du compte. Bien sûr, il y a quelques pays qui ont progressé, et c'est très bien parce qu'ils font la démonstration que quand on fait des efforts, on progresse.
Mais
il y a
pas
aussi
progressé.
Les pays qui n'ont pas progressé. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut parler encore d'une situation très grave en République démocratique du Congo, au Nigeria, qui sont vraiment aujourd'hui encore fortement affectés par le paludisme.
Docteur Jeanne Van Herpes, une réaction ?
Ah ben je confirme ce que dit Bernard. Il n'y a pas de mystère là-dessus. On accuse un retard sur le déploiement de ce médicament qui peut ou pourra sauver énormément. Il y a le Fonds mondial qui a accepté de gérer ce dispositif dont je vous ai parlé, qui va offrir ces médicaments non plus par un processus complexe de devoir remettre des demandes de financement, décrire son plan national qui est approuvé 6 mois plus tard par le Fonds mondial, qui alors l'argent est déboursé à peu près 1 an ou plus après. Il y a moyen de s'affranchir de ces processus. C'est effectivement en offrant tout de suite les médicaments à l'entrée du pays, à tout acheteur de médicaments, pour pouvoir acheter ces médicaments chinois, qui normalement sont beaucoup trop chers pour eux, et de les mettre dans les pipelines qui existent et qui amènent des médicaments maintenant. Il y a vraiment toute la connexion à faire, les tuyaux sont là pour acheminer les médicaments, seulement c'est les mauvais médicaments qui arrivent. Pour y mettre les bons médicaments, il faut les rendre aussi bon marché que la chloroquine et le francidaire. C'est ce que ce dispositif qui a été recommandé en 2004 par le prix Nobel d'économie, et bien voilà.
Il faut aller plus vite, on l'a bien compris, docteur Jeanne voilà. Van Herpes. Merci, je rappelle donc que vous êtes conseiller principal au Rollback Malaria. Docteur Bernard Pécoul, on se retrouve dans 3 minutes après les informations, donc toujours pour parler de cette lutte contre le paludisme. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le paludisme avec le docteur Bernard Pécoul, qui est directeur exécutif de la fondation DNDI, l'initiative sur les médicaments pour les maladies négligées. Et nous avons également au téléphone le professeur Ogbara Dumbo, qui est directeur du Malaria Research and Training Center au CHU de Bamako. Il est professeur à la faculté de médecine de Bamako au Mali. Dr. docteur Bernard Pécoul. Dans la première partie de cette émission, on a parlé des progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, de l'arrivée de nouveaux médicaments à base d'artémisinine. Et entre autres, vous avez mis au point, quand je dis vous, hein, c'est le DNDI, deux nouveaux médicaments, l'Azac, c'est ça, entre autres?
Oui, nous avons mis au point une combinaison d'artésunate avec l'amodiaquine, qui est en train de traitement recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, il est enregistré dans 25 pays en Afrique, donc il est mis en œuvre dans 25 pays en Afrique. Donc depuis son lancement, on estime que 50 millions de traitements ont été distribués. Donc c'est un médicament extrêmement simple d'utilisation, puisque pour la plupart des patients, c'est un comprimé par jour, pendant 3 jours, pour traiter une crise de paludisme. Son prix a été fixé dès le départ à moins d'un dollar par traitement.
Donc aujourd'hui, pour les 3 jours?
Pour les 3 jours. Aujourd'hui, on est à moins de 80 centimes. Donc c'est vrai que c'est encore trop cher pour les populations, mais avec ce qui a été mentionné avant, donc cette arrivée d'un subside qui va réduire le coût, je pense qu'on va pouvoir avoir Azac au niveau de 5 centimes pour les populations. C'est déjà le cas. Les enfants, aujourd'hui, c'est 25 à 30 centimes. Hein, donc on est déjà proche. On a pu mener des études pour montrer efficacité, mais aussi la bonne tolérance. Donc, il y en a une qui a été finie au Libéria. Il y en a une grande étude qui commence en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en partenariat avec Sanofi et Médecine for Malaria Venture. Donc, notre partenaire clé, Sanofi, a vraiment joué le jeu et a mis en œuvre ce produit à grande échelle.
Alors, c'est ça. Donc, il y a un premier traitement qui est plutôt, je dirais, destiné à l'Afrique. Et vous en avez sorti aussi un deuxième, plutôt au départ destiné, par exemple, au Brésil.
Voilà. Donc, le deuxième traitement, c'est une association d'artésunate avec la mefloquine, donc ce médicament qui est plus puissant et qui est adapté au contexte de l'Amérique latine. Donc aujourd'hui, c'est le programme national du Brésil l'a adopté. On a mené une grande étude de 25 000 patients en Amazonie, mais aujourd'hui, c'est tout le programme qui l'utilise. Donc il y a une extension pour l'Amérique latine, mais ce qui est la nouvelle orientation, c'est d'avoir un partenaire en Asie. Donc on a signé un partenariat avec une entreprise pharmaceutique indienne qui s'appelle Cipla, qui est un grand génériqueur indien, qui aujourd'hui est en train de finir le développement de ce produit pour l'enregistrer aussi bien en Inde qu'en Asie du Sud-Est, où ce produit pourrait vraiment être extrêmement utile, surtout dans les zones où il y a beaucoup de résistance, telles que le Cambodge ou le Myanmar. Enfin, ce produit, nous sommes en train de tester en Afrique. Donc une étude est en cours en Tanzanie avec extension Kenya et Burkina Faso afin de définir la place de ce produit en Afrique qui pourrait jouer un rôle spécifique dans le programme ambitieux de contrôle et d'élimination du paludisme.
Professeur Ogobara Dumbo, vous êtes de nouveau en ligne avec nous. Alors je le redis, hein, vous deviez être en direct en studio, mais vous avez été retenu à Bamako, et je dirais pour la bonne cause, parce que vous menez des essais cliniques, et je voudrais bien justement qu'on parle de ces essais cliniques. Vous menez des essais sur un vaccin contre le paludisme. Et d'ailleurs, plusieurs essais sur plusieurs vaccins, si je ne me trompe.
Tout à fait. Alors, nous, au Mali, au niveau du Malaria Research and Training Center, nous avons 4-6 essais cliniques de niveau international. Et nous avons actuellement 2 vaccins en cours. Le premier, que nous avons commencé en phase 2A, donc d'efficacité chez les enfants, avec le professeur Pierre Bruel de l'Institut Pasteur, qui s'appelle la MSP3 à Sotiba, donc qui avance très bien et qui est un des candidats potentiels qui nous donne beaucoup de résultats intéressants parce que ça va être testé au Burkina et les résultats ont été publiés récemment. Et le second candidat que nous sommes en train de tester, c'est des candidats qui visent la phase érythrocytaire, c'est-à-dire la maladie et la multiplication du parasite dans le sang. Et le candidat du NIH, le National Institute of Health des États-Unis, et avec le professeur Lou Muller, à Bankumana. Et aujourd'hui, je suis là avec mon équipe pour tester en phase 1B chez des adultes cette nouvelle construction avec un nouveau type d'adjuvant qui augmente l'immunogénicité des candidats classiques que nous avons. Donc nous sommes en train de tester ces genres de candidats.
Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On vous dérange d'ailleurs en plein travail, hein, mais concrètement, vous faites quoi dans cet essai-là en ce moment?
Alors si vous étiez avec moi à Bankumana, vous allez voir tous les villageois sont là. Et parmi eux, nous avons un système de screening qui permet d'identifier des volontaires sains, parce qu'il faut les faire ces des volontaires en bonne santé. Donc j'ai toute une équipe clinique du point G de Gabriel Touré avec moi. qui les examine cliniquement. J'ai tout un laboratoire sur le terrain qui fait la biochimie, l'hématologie, les urines, tout, pour s'assurer que le volontaire adulte que nous avons n'a aucune maladie. Donc une fois qu'il passe l'ensemble de ces tests au laboratoire que nous faisons sur le terrain, il va recevoir en aveugle soit le candidat vaccin, soit un autre produit standard, et nous allons le suivre avec un protocole classique pour voir l'immunogénicité et éventuellement l'efficacité sur un certain nombre de paramètres qu'on appelle les endpoints, primaires et secondaires.
Professeur Ogobara Dumbo, merci vraiment beaucoup et ça me donne très envie de venir vous voir concrètement justement faire ces essais cliniques, faire un reportage pour savoir comment ça se passe. On vous laisse justement retourner auprès de vos patients et travailler. Merci beaucoup d'être intervenu et je vous le rappelle, n'hésitez pas quand vous passez à Paris à venir nous voir, on a toujours très envie de vous recevoir. Et on a au téléphone en parallèle le docteur Seliji Anyanji. Docteur Anyanji, bonjour.
Bonjour madame.
Vous travaillez dans l'unité médicale de recherche de l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon, et vous menez aussi des recherches, je dirais, sur un troisième candidat vaccin, différent des deux autres dont nous a parlé le professeur Ogobara Dumbo. Vous faites des recherches sur un vaccin qui s'appelle le RTSS, c'est bien ça?
Exactement, le vaccin RTSS, qui est aussi un vaccin contre le paludisme, mais qui, par rapport aux autres vaccins, est plus avancé dans son développement clinique. Ça veut dire que ce vaccin est évalué pour avoir des informations sur son efficacité, pour avoir plus d'informations sur son efficacité et savoir s'il peut être mis sur le marché dans quelques années.
Quelle est l'efficacité de ce vaccin?
Et les études précédentes, dans l'ensemble, il y a plusieurs études qui ont déjà été faites. Dans le jargon de la recherche, on parle de phase 2, phase 3. Nous sommes en phase 3 avec le vaccin RTSS. Et globalement, c'est une efficacité qui tourne autour de 50% de protection. Concrètement, ça veut dire qu'on sauverait avec ce vaccin, on protégerait la moitié des enfants, on sauverait la moitié des enfants qui décèdent de palu chaque année. Ça fait quand même quelques centaines de milliers d'enfants qui pourraient être sauvés grâce à ce vaccin.
Mais c'est important de le dire, ce n'est pas une efficacité à 100%. On est souvent habitué avec des vaccins à ce qu'ils soient efficaces à 100%, à ce qu'ils protègent complètement contre une maladie. Ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore retrouvé le vaccin complet.
Non, on n'a pas encore un vaccin qui va protéger à 100% ou presque à 100%, comme c'est le cas pour certaines affections. Il faut savoir que le microbe du qui est un parasite est beaucoup plus complexe que la plupart des autres microbes et donc avoir un vaccin est beaucoup plus difficile. Donc on estime qu'un vaccin qui sauve, qui protège la moitié des enfants qui décèdent ou qui ont des complications liées au paludisme est très acceptable en termes de santé publique. Il faut voir de façon globale pour tous les enfants qui sont tous les jours affectés par le paludisme. Et on pense aussi qu'on ne va pas s'arrêter après ce vaccin, on va continuer à travailler pour améliorer ce vaccin ou avoir un vaccin plus efficace que celui-là.
Docteur Seliji Anyanji, merci. Je rappelle que vous travaillez dans l'unité médicale de recherche de l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon. Docteur Bernard Pécoule, une réaction sur ces candidats vaccins?
Écoutez, c'est essentiel, si on veut imaginer l'élimination, c'est essentiel d'avoir des meilleurs outils. Alors, des meilleurs outils de prévention et des meilleurs outils de traitement. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Les résistances vont nous rattraper. C'est sûr qu'il faut des meilleurs outils de traitement. Donc il faut avancer dans le domaine de la prévention et le vaccin sera l'élément clé dans cette prévention. Alors, bien entendu, on ne va pas obtenir le vaccin idéal en une seule fois. Donc les premiers vaccins vont avoir une efficacité limitée. Mais on aura démontré qu'on peut avoir un vaccin contre un parasite. C'est déjà une première étape. Et après, on l'améliorera. Donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, savoir qu'il y a plusieurs études de vaccins en cours de route, puisqu'il en faudra sans doute pas mal avant d'arriver à un outil efficace qui permette de prévenir cette maladie chez l'enfant. Maladie extrêmement complexe, hein. C'est une maladie qui est très variée d'un pays à l'autre, très variée d'une région à l'autre à l'intérieur du pays et parfois très variée d'un village à l'autre.
C'est ça justement, on se demande un peu, est-ce qu'on n'a pas mis les moyens, on aurait dû trouver un vaccin depuis longtemps parce qu'on n'a pas mis les moyens, ou est-ce que tout simplement c'est une maladie compliquée, on a du mal à trouver un vaccin?
Il y a un peu des deux. Alors c'est sûr que les moyens qui ont été investis dans la recherche de vaccins ont été vraiment très insuffisant au cours des dernières décennies. Donc ça change un petit peu et c'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième, la contrepartie, c'est que c'est un vaccin beaucoup plus complexe parce qu'il se, de par la nature du parasite, la complexité du parasite, il va être très différent des vaccins qui ont été développés pour les maladies qui ont bénéficié jusqu'à maintenant de cet outil de prévention.
On pense à la polio, par exemple.
La polio, etc.
Priorité santé, Claire Hédon.
Docteur Bernard Pécoul, dans deux jours se déroule la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est à cette occasion que nous faisons cette émission. Et alors ce soir, sur Arte, est diffusé un documentaire, un film, Un dollar pour une vie.
Oui, c'est un documentaire qui a été tourné durant ces 18 derniers mois dans de nombreux pays africains, asiatiques, pour décrire comment on pouvait apporter des nouveaux médicaments à travers des efforts de recherche aux populations les plus défavorisées, alors celles qui sont atteintes de paludisme, mais aussi celles qui sont atteintes de maladies de sommeil ou de Kala-Azar, la leishmaniose, qui touche beaucoup l'Afrique de l'Est et l'Asie autour de l'Inde.
Alors c'est ce soir sur Arte, comme toujours, après c'est disponible sur le site d'Arte, donc sur Internet. Docteur Bernard Pécoul, je voudrais qu'on revienne plus concrètement sur le travail que vous faites avec le DNDi, cette initiative sur les médicaments pour les maladies négligées. Je voudrais savoir concrètement comment vous menez les recherches, comment vous faites. On a parlé tout à l'heure de deux nouveaux médicaments que vous avez mis au point justement contre le paludisme. Comment vous avez fait ?
Mais écoutez, le DNDi, l'initiative, est une initiative qui met des partenaires ensemble, qui fait travailler des partenaires privés, publics, autour de même objectif, c'est d'amener la meilleure des sciences pour les populations les plus défavorisées. Donc ça oblige à partir des laboratoires au stade vraiment découverte. Donc on est obligé de puiser dans la réserve de molécules qui a été développée par les grands laboratoires ou les grandes institutions de recherche pour d'autres maladies, mais on puise en ces réserves-là, on fait de la sélection, on fait du criblage afin d'identifier des candidats. Donc là, ça se passe au laboratoire. Ensuite, on passe par l'étape de recherche animale. Donc on teste ces médicaments sur les animaux afin de vérifier leur efficacité sur les maladies que l'on veut traiter, mais aussi leur bonne tolérance pour qu'ils soient applicables à l'homme. Et puis enfin, on rentre dans la phase de recherche clinique où là, avec des partenaires directement impliqués sur le terrain, dans les pays, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Asie, en Amérique latine, on teste ces médicaments auprès des populations sur des partenariats qui sont des partenariats sur la durée, parce qu'on s'engage sur la durée avec ces partenariats, et ceci en parallèle tout en signant des accords avec les entreprises pharmaceutiques, que ce soit les grandes entreprises comme Sanofi, comme Merck, mais aussi des entreprises indiennes de génériques qui peuvent s'engager à la production de ces produits, à la distribution de ces produits, dans des conditions qu'on fixe depuis le début. Donc il nous faut ces médicaments de qualité, mais à des prix qui soient acceptables pour les programmes de santé.
Et ça veut dire concrètement sans brevet, sans protection industrielle,
alors,
c'est ça, intellectuelle ?
Typiquement pour les deux médicaments que nous avons développés pour le paludisme, nous avons fixé la condition dès le début, c'est que c'était développé comme des biens publics, donc il n'y a pas de brevet, donc on a signé des accords de licence avec un partenaire, mais ce sont des accords non exclusifs, donc on a la possibilité d'offrir le savoir-faire, d'offrir toutes les connaissances à d'autres partenaires afin d'assurer la disponibilité de ces produits en quantité, mais aussi au prix le plus intéressant.
Et ça a été difficile, je dirais, de convaincre l'industrie pharmaceutique sur ces médicaments sur lesquels ils travaillent avec vous, d'abandonner l'idée d'un brevet ?
Écoutez, ça a été un dialogue. Le partenariat nécessite beaucoup de discussions, beaucoup de compréhension entre partenaires pour qu'on se comprenne sur les objectifs et qu'on voit comment on peut travailler en complémentarité afin d'atteindre des populations cibles qu'on a définies au début. Donc je pense que quand les gens ont bien compris l'intérêt de ce projet, je crois qu'ils adhèrent et après on signe des accords. Hein. On a une phase de négociation qui est assez difficile et on a des garanties parce qu'on a signé ces accords sur la durée avec des engagements de la part de chacun de nos partenaires.
Alors si on revient sur l'exemple de l'ASAC, hein, ce médicament contre le paludisme qui est distribué en Afrique, quel est l'intérêt? Vous avez signé en l'occurrence un partenariat avec Sanofi Aventis. Quel est l'intérêt de Sanofi Aventis de signer ce genre de partenariat si justement il n'y a pas de brevet?
Alors Sanofi était déjà sur le terrain du paludisme, donc on avait déjà une porte d'entrée parce qu'ils étaient déjà intéressés par ces produits. Ils avaient essayé de développer ce produit, mais sans arriver à cette dose fixe. Donc on leur amenait une dose fixe, quelque chose qui était adapté aux besoins des populations. Ça leur permet quand même d'avoir une présence assez massive en Afrique, hein, puisque là aujourd'hui 25 pays ont adopté ce traitement. Donc ça leur permet d'être très présent sur ces marchés, d'être visible, d'avoir une image qui est favorable, de rendre un vrai service public. Donc je pense que ça motive la compagnie, ça motive en interne. Évidemment, le personnel Sanofi est très très fier de ce projet. Le produit est fabriqué aujourd'hui au Maroc. C'est une usine qui est pas complètement dédiée à ce produit, mais plus de 50% de l'usine marocaine travaille à la production de ce produit. Hein. Aujourd'hui, cette année, la prévision, c'est de produire plus de 50 millions de traitements pour l'année 2010. Donc c'est un projet majeur qui motive les partenaires. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à gagner dans ce partenariat et je crois que ça a été bien compris de la part des dirigeants.
Alors vous l'avez dit, hein, Sanofi Aventis y a un intérêt, ça leur fait une présence en Afrique et on entend finalement de plus en plus parler de ça, de l'industrie pharmaceutique qui se dit finalement l'Afrique c'est un marché.
Écoutez, je pense que le modèle qui était prévalent dans les années 90, qui se concentrait sur moins de 20% de la population mondiale,
sur les pays occidentaux,
c'est un modèle qui a vécu et qui ne pourra pas durer. On ne peut pas imaginer que tous l'effort de la recherche et de l'industrie pharmaceutique se concentre uniquement sur 20% de la population mondiale. Donc il faut l'étendre. Alors bien entendu, il y a les marchés émergents qui sont évidemment aujourd'hui extrêmement attractifs parce qu'il y a une population qui peut payer. Mais dans ces marchés émergents, il faut savoir qu'il y a une grande population qui reste à côté. Hein.
C'est le cas du Brésil,
c'est le cas de l'Inde, où il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès aux biens les plus essentiels, et en particulier aux médicaments essentiels. Donc là, il y a une situation un petit peu intermédiaire. Et alors, en Afrique, bien entendu, il faut que des efforts de ce type-là pour que les populations puissent bénéficier des progrès de la science.
Et donc, vous avez du mal à convaincre, parce que vous avez donc maintenant des accords avec Sanofi Aventis, d'autres industries pharmaceutiques de vous rejoindre?
Non, je dois dire que le premier accord qu'on a passé, qui a été un succès, qu'on a pu diffuser, qu'on a pu faire savoir, nous a ouvert pas mal de portes. Et depuis, nous avons signé des accords avec Pfizer, avec Merck, avec les grandes compagnies qui nous ont soit offert l'accès à leurs molécules. Et c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a accès aux meilleurs produits afin de les sélectionner pour les maladies, les malades les plus pauvres. Ou sont rentrés en partenariat avec nous. Je peux penser à une compagnie japonaise, une grande compagnie japonaise, Eisai, qui rentre avec nous sur un programme de Chagas, donc la maladie qui touche l'Amérique latine, une maladie extrêmement sérieuse pour l'Amérique latine, mais qui touche les plus pauvres en Amérique latine. Donc personne ne s'intéresse à cette maladie. On a pu signer un accord sur la durée avec une compagnie japonaise.
Et ça, il y a une grande évolution des mentalités de la part de l'industrie pharmaceutique là-dessus.
Alors, évolution des mentalités, mais aussi, je pense, ils sont convaincus une approche assez pragmatique et une approche qui fait avancer les dossiers et qui produit des résultats. Je pense que c'est une industrie qui a besoin de voir que les choses se traduisent dans le concret, qu'il y a des projets qui débouchent. Donc là, aujourd'hui, DNDi a développé 3 nouveaux traitements. On a un portefeuille de projets qui est assez riche. D'ici la fin de cette année, on pourrait amener 3 autres nouveaux traitements. Si ce n'est pas la fin de l'année, ça sera le début de l'année suivante. Donc on va étendre l'offre aux populations et toujours dans les mêmes conditions, donc des traitements adaptés aux populations, donc qui permet d'être utilisé dans les coins les plus défavorisés et à des prix les plus favorables.
Et on va revenir justement sur vos projets.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Bernard Pécoul, avant de revenir justement sur ces projets, ces nouveaux traitements qui sont en cours, je voudrais qu'on revienne sur les financements de la Fondation Diendien, du comment elle fonctionne. D'abord, est-ce que vous gagnez de l'argent sur les nouveaux traitements que vous sortez, par exemple sur la ZAC?
Alors bien entendu, nous ne gagnons pas d'argent, nous sommes à but non lucratif et tout l'argent qui vient des NDI est investi dans la recherche. En ce qui concerne la ZAC, il y a une toute petite part de royalties parce qu'il y a une petite part du marché privé. Et donc on reçoit un tout petit financement de la part de Sanofi, mais est immédiatement réinvesti dans la recherche et notamment sur toutes les études qui permettent de mesurer la bonne tolérance de ces produits. Donc c'est un modèle qui se veut tourner vers les populations et qui part des besoins des populations et qui veut rendre le bénéfice de la recherche vers ces populations. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne.
Alors si vous ne gagnez pas d'argent ou quasiment pas que vous réinvestissez dans la recherche, comment vous fonctionnez? Vos financements viennent d'où?
Alors nos financements, bien sûr, ce sont des subventions. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de partenariats. On a créé DNDI grâce à une première injection d'argent de la part de Médecins Sans Frontières qui était le premier donateur de DNDI et qui s'est engagé pour
sur
une période
long terme.
De 10 ans. Et depuis, on a été rejoint par certains gouvernements, donc pour le gouvernement britannique, le gouvernement espagnol, le gouvernement français nous ont apporté leur soutien. On a la fondation Gates qui a apporté son soutien. On a une multitude d'autres donateurs qui ont apporté leur soutien. Cependant, je dois dire que notre grand souci, c'est la pérennité. Et notamment, je vais insister sur le gouvernement français, puisque le gouvernement français nous a accompagnés ces 4 dernières années de manière conséquente, pour plus de 2 millions d'euros par an. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'engagement sur le futur. Et ça, c'est un problème, parce que quand on est dans une activité de recherche, il faut qu'on sache que ce qu'on engage aujourd'hui, ça va se traduire en bénéfice pour les populations. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu.
Et puis, vous ne pouvez pas arrêter les recherches en cours, ça n'a aucun intérêt.
Exactement, c'est absolument non acceptable pour les populations. Donc là, c'est l'enjeu de toutes nos discussions, c'est l'enjeu du film qui est présenté sur Arte ce soir, c'est de convaincre les populations françaises, mais le gouvernement français, que c'est un investissement qui vaut le coup,
rentable.
Puisque c'est une manière de lutter contre la pauvreté, c'est une manière d'apporter des choses extrêmement concrètes aux populations qui aujourd'hui sont nécessiteuses.
Docteur Bernard Pécoul, vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez mis au point depuis le début du DNDI 3 nouveaux médicaments, 2 sur le paludisme, on en a parlé tout à l'heure, le troisième sur...
Alors le troisième, c'est sur la maladie du sommeil, donc maladie qui touche essentiellement l'Afrique centrale, une maladie létale qui tue 100% des patients sans traitement. Jusqu'à maintenant, on utilisait de l'arsénic pour traiter ces patients. C'est totalement inacceptable avec un patient sur 20 qui décédait de la toxicité de ce produit. Donc nous avons mis en place une étude qui permettait de traiter une combinaison de traitements, les fluornitines et les furtimox. Les études ont été finalisées, ont été validées, approuvées par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, 5 pays les plus touchés ont déjà intégré ce traitement dans leurs programmes nationaux. Alors ce n'est pas encore la panacée parce que ça reste un traitement assez complexe d'utilisation. En tout cas, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup mieux toléré par les patients et il a une grande efficacité. Donc en parallèle, on a d'autres produits qui viennent sur cette maladie, qui seront beaucoup plus simples d'utilisation, mais bien entendu, ils sont encore à une phase beaucoup plus précoce de traitement.
Et alors justement, sur quoi travaillez-vous? Vous nous avez dit que vous avez plusieurs médicaments qui ne sont pas loin de sortir, vous espérez sur l'année 2010-2011. Il s'agit de quoi? De traitement de quelle maladie?
Alors, là, l'espoir vient dans le domaine de la leishmaniose viscérale, donc une maladie qui touche l'Asie autour de l'Inde, le grand foyer c'est l'Inde, qui touche l'Afrique de l'Est, mais qui touche aussi le Brésil, donc tous les continents. C'est une maladie létale aussi. Aujourd'hui, les traitements sont complexes, non satisfaisants, très toxiques. Donc on a mis au point toute une série d'études sur les combinaisons. Elles ont été finalisées en Inde, d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je suis en Inde avec les autorités indiennes et c'est de voir comment les résultats de cette étude peuvent se transformer en recommandations pour les programmes nationaux. Nous sommes à peu près au même état d'avancement pour l'Afrique de l'Est, où nous avons complété toute une série d'études, tout en continuant d'autres activités. Et là aussi, nous espérons atteindre l'étape des recommandations d'ici la fin de l'année. Enfin, le dernier projet, c'est sur le Chagas. Aujourd'hui, la plupart des populations touchées par la forme aiguë de cette maladie de Chagas sont des enfants. Or, le seul traitement qui existe, c'est un traitement d'adulte. Donc, pour traiter l'enfant, il faut qu'on coupe le comprimé en 6, voire 8, voire 10 portions. Ce qui fait qu'on ne sait pas la dose qu'on donne aux enfants. Donc nous avons mis en place un programme de développement d'une formulation pédiatrique pour cette maladie. Nous espérons que ce produit sera disponible à la fin de l'année 2010.
Docteur Bernard Pécoul, merci. Vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé, entre toutes les coordonnées du DNDi. Lundi, nous verrons comment réagir en cas de difficulté dans la vie, comment bien utiliser ses propres ressources. Et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé ? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.